Attaquons le jeu en lui-même. Vous commencez par un tutoriel qui vous explique les bases. Premier constat, l'objectif est bien indiqué, point orange clignotant à l'écran, et votre ordinateur de bord vous indique quoi faire, alors restez attentif. Par contre, un gros problème, il va vous dire allez au marqueur, mais ce qui vous est demandé, c'est de vous mettre à l'abri. Et ça, on vous dit comment faire par écrit. Sinon on retrouve la simplicité du système Ubisoft, une touche, une action, pas de combinaison compliquée. Sudis Box One, c'est A pour vous planquer, B pour monter, I pour passer d'une arme à l'autre, 10 pour charger l'arme active, bouton droit gauche pour activer les compétences, croix directionnelle pour le soin d'un côté et les grenades de l'autre, et pour les sticks c'est classique, gauche pour se déplacer, droit pour orienter la caméra. Il faut apprendre par cœur pour les non-lecteurs, pratiquer un peu pour s'habituer et c'est bon. On vous demande de tester tout ça et quelques constats tombent. Pour Zelda le viseur est blanc, et sur la neige c'est pas pratique et on le voit pas bien. Le fil du GPS aussi est très fin, car il a des problèmes de vue et effectivement, le pointeur de l'arme ou le fil du GPS, est parfois difficile à repérer, encore plus s'il neige. Heureusement, si on pointe dans la direction d'un ennemi, la visée aidée permet de toucher assez facilement. Pour mes boss la mini-carte, c'est un radar, on voit pas bien où ils sont, j'aime moins. En fait, comme dans d'autres jeux de tir, c'est un radar de proximité si l'ennemi est loin, la bordure est rouge, s'il est proche un angle du radar est rouge, s'il est sur vous, le rond central est rouge. Ce n'est pas toujours facile d'interpréter ce signal, il faut une bonne vision spatiale pour se dire, que si c'est rouge en bas du radar, c'est que vous avez un ennemi dans le dos, puisque vous êtes le centre du radar. Et la plupart se sont fait surprendre par derrière faute de comprendre ce système. Pour Nico, même si les actions sont simplifiées, il faut tout de même jongler entre les actions et bouger, viser, tirer, changer d'arme, se soigner, garder un œil sur le radar pour ne pas se faire contourner, c'est le côté confus du conflit où il faut être très réactif. Moi je préfère foncer et tirer comme dans Call of Duty, on peut aussi attendre et tirer de loin, ajoute Nico. C'est ce qu'on avait ressenti à Paris. Les combats sont donc très dynamiques, et parfaitement intégrés à l'environnement. Il faut utiliser les protections, les ennemis vous encerclent et se cachent bien également. L'intelligence artificielle, est bien faite et les ennemis ont des comportements crédibles, sauf quand ils ont décidé de poser une bombe sur une caisse, et viennent chacun leur tour s'y coller, quitte à se faire descendre. En tout cas, si on enchaîne les combats, l'impression de répétition ne se fait pas trop sentir, car les défis sont variés. Plus vous avancerez, plus les ennemis seront spécialisés, organisés et difficiles à battre. Les missions vous mettront en plus face à des boss bien costauds. Vous avez différents types d'armes en fonction de la distance de tir, sniper pour tirer de loin, mitrailleur pour le mi-distance, et enfin pistolet pour le corps à corps. Voilà pour la partie TPS, passons à la partie MMO. Sinon, le jeu est un faux monde ouvert. La carte est accessible, mais si vous sortez trop de la zone à votre niveau, vous avez intérêt à faire profil bas et encore, vous ne ferez pas de vieux os. On retrouve les mécanismes Ubisoft, vous entrez dans un secteur, débloquez la plante de la zone, comme les tours dans les Assassin's Creed, pour faire apparaître sur votre carte, les missions secondaires ou donnant des points de sécurité santé énergie. En finissant la zone vous montez en niveau, de quoi passer à la zone suivante. C'est donc assez directif, mais bien amené et on le sent peu. Ces points acquis en mission spéciale, vous servent à débloquer des compétences et talents dans votre base principale. Vous gagnez des points de santé avec les missions vertes par exemple, vous les utilisez pour débloquer une partie de l'aile médicale de votre base, pharmacie, aide pédiatrique. Ce qui vous donne accès à de nouveaux bonus, talents et compétences pour votre personnage. De plus, dans votre base, vous pouvez faire le plein de munitions et grenades, faire le tour des marchands ou vous fabriquer une arme ou pièce d'armure avec les matériaux cachés dans les boutiques de la ville. Chaque nouveau niveau mission mené à terme, vous débloque des plans d'objets à fabriquer. Ouvrez l'interface, choisissez l'objet et fabriquez. Rien de plus simple. Les bonus obtenus sont aléatoires et modifiables, si vous débloquez l'établi de recalibration dans l'aile technique, zone. Dernier point, et pourtant important, The Division est un jeu en ligne. Il faut être connecté, mais ça permet de jouer avec et ou contre d'autres joueurs. Les missions principales sont difficiles à réaliser seules, mais pas impossibles puisque le nombre d'ennemis dépend du nombre de joueurs dans le groupe. Donc il est préférable de s'allier avec d'autres pour être plus efficace. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 dans un groupe et, si vous avez un micro, vous pouvez discuter entre vous. Le problème, c'est que les serveurs sont mondiaux, donc vous tomberez souvent sur des personnes qui ne sont pas françaises. Le seul moyen de s'en sortir, est de jouer avec vos amis enregistrés sur votre console, ou d'ajouter les Français que vous croisez en amis. Enfin, il y a cette grosse zone rouge et vide au centre de la carte, la Dark Zone où survivent les infectés, les rôdeurs, les nettoyeurs et qui sait encore quoi. Et surtout, tout est permis dans cette zone, y compris tirer sur les autres joueurs pour leur voler leur matériel. C'est une zone de guerre avec des combats encore plus dynamiques puisque ce sont des joueurs, plus des intelligences artificielles, même si on en trouve dans cette zone, bien plus forte que celle de la zone normale. Attention avant de vous y aventurer, mais si vous tenez le coup, le matériel qu'on y trouve vaut le coup.